السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشافعون الإسلام، nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous a gratifié par la foi, par l'iman. Allah Rabbul Izzah nous a choisi pour avoir dans notre cœur la shahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est un cadeau qu'Allah Azza wa Jal accorde aux personnes qu'il aime de naissance ou durant leur vie. Et l'objectif, c'est de le garder dans son cœur, de le pratiquer par le biais de ses a'mal, de ses actes, et d'invoquer Allah, de le supplier à travers les invocations Ihdina as-sirat al-mustaqim, Ihdina as-sirat al-mustaqim, qu'on va lire dans chaque fatiha de chaque salat, demander à Allah Rabbul Izzah de nous garder istiqama, de nous garder de le droit chemin jusqu'à la mort. Al-Faiz, celui qui a réussi sa vie, c'est celui qui a passé sa vie dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal et qui est mort donc avec iman, avec la foi. Chers frères en islam, cette religion qu'Allah Azza wa Jal a accordée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la dernière des communautés, notre communauté la Ummah, c'est une religion qui est composée d'actes d'adoration, de ibad, de culte, la prière, le jeûne et ainsi de suite. C'est une religion qui est composée également de a'mal al-qulub, d'actions intérieures qui sont propres au cœur. La taqwa, l'amour pour Allah, la crainte d'Allah, ce sont des notions qu'on se doit de développer. Ce dîn se repose également sur le respect à l'égard des autres. C'est ce qu'on appelle akhlaq, le bon comportement envers les parents, l'épouse, les enfants, les proches, les voisins, les musulmans, les non-musulmans, les personnes de toute confession. Et enfin, ce dîn se repose également sur l'honnêteté, la justesse, le sens de l'équité dans les relations que nous aurons avec les autres, dans les transactions, ce qu'on appelle les mu'amalah. Et pour pratiquer correctement, de façon cohérente, équilibrée, ces quatre points de la religion, ibad, akhlaq, tawadu', taqwa, mu'amalah, pour les pratiquer comme il le faut, le dîn est basé sur deux piliers. Il y a deux sources pour pratiquer correctement ces quatre catégories de a'mal. Il y a deux sources. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal, le Coran, et c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les textes prophétiques, les hadiths. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous a dit dans un hadith que nous devons de garder à l'esprit, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Je vous ai laissé deux choses, umma umma. Et ma umma, c'est depuis Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, jusqu'au dernier des hommes avant le Qiyama. Sans limite de temps, sans limite d'espace, c'est pour Mecca, c'est pour Medina, la péninsule arabe, c'est pour n'importe quelle région du monde, et c'est pour n'importe quelle génération jusqu'au Qiyama. Ma in tamassaktum bihi, si vous accrochez à ces deux choses, vous ne serez jamais égaré. Et jamais égaré, les savants disent que, quelles que soient les époques, même à l'époque du plus grand des menteurs, Ad-Dajjal, l'Antéchrist, même à cette époque, le musulman qui se raccroche à la parole d'Allah, et entre autres à la sourate Kahf, cette personne ne sera jamais tentée par les pièges de Ad-Dajjal. Ainsi donc, dans notre dîn, toute action a une source. Chaque action a une source. Et ce qui fait la spécificité de cette umma, c'est que notre livre a été préservé par Allah. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidhun. Allah Rabbul Izzah a garanti la protection du Coran, chose que les autres communautés n'ont pas eu. Hélas, c'est un des signes de plus pour que nous voyons comment Allah Azza wa Jal aime cette communauté. Concernant les textes prophétiques, Allah a accordé à cette umma une science qu'aucune communauté n'a eue avant nous. C'est ilm al-hadith, la possibilité d'étudier les chaînes de narration, al-asanid, d'étudier la biographie des rapporteurs de hadith, qu'on appelle al-jarh wa al-ta'dil. C'est une science très technique, très poussée, qui, résultat, nous permet de remonter à la source de chaque parole, chaque action, chaque prise de décision. Tout doit trouver une source, soit dans les paroles d'Allah, le Coran, qui est accessible à tout le monde, ou alors dans les textes prophétiques. Qu'est-ce qu'on retient à travers ces deux sources? Et nous avons vu que les deux sources sont sûres. Les deux souhaits sont préservés. Les deux souhaits ont été transmises de génération en génération, de poitrine en poitrine, d'écrit en écrit, jusqu'à arriver à notre époque, et cela se transmettra jusqu'au Qiyama. C'est là la promesse d'Allah Azza wa Jal. Ça nous fait réaliser que chaque parole qu'on prononce, chaque décision qu'on prend pour le din, et chaque action qu'on va accomplir dans le cadre de la religion, doit trouver sa source dans le Coran et la Sunna. Donc ça, c'est la troisième étape de la réflexion. On continue un peu le cheminement pour amener vers un résultat. La suite du cheminement, c'est une prise de conscience de l'importance de la connaissance religieuse, ta'lim, l'importance des madrasas, des écoles où on dispense la connaissance religieuse, l'importance des écoles supérieures, on peut appeler ça les Darul Uloum, on peut appeler ça les Jami'a Islamiya, les universités islamiques, on va enseigner tout ce qui est plus technique, tout ce qui est nécessaire pour la formation de leaders, de personnes qui, Inch'Allah, vont essayer de connaître un peu le tafsir du Coran, les règles de base de la jurisprudence islamique, les grands livres de hadith, pour pouvoir prêcher et enseigner donc l'islam. Donc, on réalise que la connaissance religieuse est la condition sine qua non pour apprendre la religion et transmettre la religion, et pour être sûr de ne pas commettre d'erreurs dans notre pratique au quotidien, de nos prises de décision, ça peut être en tant que dirigeant ou en tant que simple citoyen, ou alors dans notre façon d'évoluer au sein de la société. Il faut donc un minimum de connaissances. Il faut la connaissance sur les textes, la connaissance sur l'authenticité des sources, des actions qu'on va mettre en pratique, mais également un point qui est plus technique qu'on peut avoir uniquement auprès des savants, ce qu'on appelle les maqasid al-shari'a, l'objectif recherché dans le din à travers chaque législation. D'où l'importance, encore une fois, des médersas et l'importance des savants, des ulama, de la fréquentation des savants. Parce que, mes chers frères, en islam, et c'est là le point de chute, et c'est là un constat qui est à l'origine de tous les maux de la société. Lorsqu'il y a l'absence de ilm, l'absence de connaissances religieuses, lorsqu'il n'y a pas à la base d'éducation islamique, lorsqu'il n'y a pas de savants référents qui vont dispenser une science religieuse cohérente, adaptée à la société dans laquelle les gens vivent, ben l'ensemble de notre rapport avec la religion sera faussé, sera biaisé. Dans les ibadas, dans les actes d'adoration, il y en a qui vont exagérer, ce qu'on appelle al-ghulou. Exagérer dans les actes d'adoration jusqu'à en faire tellement trop, cela dépasse ce que le dîn nous demande. Il y en a d'autres, et en ayant bonne conscience, en ayant à chaque fois bonne conscience, je suis persuadé de faire le bien, mais j'exagère, je fais ce que le dîn ne m'a même pas demandé. Ou alors il y aura un manque. Une personne qui va se dire que moi je travaille, je finis mon travail au bureau à 18h, il n'y a pas de mal à faire le qaza. On va banaliser le namaz qaza, le rattrapage des prières, en se disant que je suis excusé parce que je travaille, ce qui est totalement erroné. Et en ayant également bonne conscience. Quand il y a absence de din, de connaissances religieuses, il y aura un manquement également dans le akhlaq. On avait dit, il y a ibada, akhlaq, a'malul quloub et mu'amala, dans le comportement. Et ça, c'est un constat malheureux. Absence de comportement adéquat, correct, à l'attention des parents. Absence de comportement correct de beaucoup de musulmans à l'attention de leur épouse. Et une absence totale, j'essaie de trouver un autre terme, mais une absence totale dans l'éducation, dans la tarbiya de nos enfants. Et certains vont même aller jusqu'à certaines thèses que, par exemple, pour éviter les problèmes de la famille, vaut mieux ne pas se fréquenter. Ça, c'est des thèses qu'on entend très souvent. Tout ça, c'est natija, ça résulte du jahl, de l'ignorance. Et d'autres qui vont se dire qu'après le mariage, la priorité ça devient madame et les enfants et non plus les parents. Tout ça, c'est des cas de figure réelle. La source, c'est le manque de connaissances. Donc, il y a une répercussion de notre pratique de la religion, il y a une répercussion de notre relation avec les gens, le akhlaq, une répercussion également, on va aller plus vite, dans les mu'amala, dans les transactions. Tout en ayant bonne conscience. Beaucoup de gens ont recours à des pratiques illicites qui sont apparentées à l'intérêt, à l'usure, sans prendre connaissance de la réalité de ces choses. Tout ça, c'est le résultat de l'ignorance. Et puis, on s'étonne qu'il n'y a plus de bénédiction, il n'y a plus de baraka, il n'y a plus d'entrée d'argent correct, l'argent ne reste plus dans les caisses parce qu'il n'y a pas l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et si vous me permettez une parenthèse, le commerçant qui ont adopté cette technique du paiement en 3 fois par carte bancaire, qu'il se renseigne auprès des muftis et vous rendrez compte que c'est un mode de paiement qui n'est pas forcément conforme à la charia. On trouve beaucoup d'autocollants affichés sur les commerces des musulmans. On doit faire très attention. Si on veut qu'il y ait baraka, la bénédiction de nos revenus, il faut que la façon de travailler soit licite. On ferme la parenthèse, on continue à développer. Donc là, on a vu les conséquences de l'ignorance. Les conséquences qu'on est dans une communauté où il n'y a pas de madrasa, où il n'y a pas de ulama, il n'y a pas de savants. Maintenant, les conséquences sont beaucoup plus pesantes, plus dramatiques lorsqu'il s'agit d'agissements de groupes, groupuscules, avec une idéologie. Une idéologie qui est souvent violente, qui va s'approprier le terme et le monopole de ce qu'on appelle le djihad. Ce qui fait trembler toutes les sociétés, mais qui est en rien l'esprit du djihad. Le prophète alayhi salat wa salam a lutté dans la voie d'Allah lorsqu'il était à Madina, sans le moindre doute. On ne va pas dire que non, c'est pas vrai, c'est écrit dans le Coran, et les récits prophétiques le prouvent. Mais où? À quel moment? Dans quel contexte? Lorsque le prophète alayhi salat wa salam est à Makkah et à Madina Munawwara, et que les troupes de Makkah, les polythéistes de la Mecque, s'approchent de Médine pour envahir Madina, pour se venger de la défaite de Badr, et qu'ils sont prêts à mettre la ville de Madina à feu et à sang, à tuer le prophète, à égorger les femmes et à tuer les enfants, on comprend un peu mieux le contexte de lutte. S'il y a une lutte, il y a une raison. Lorsque le prophète alayhi salat wa salam se fait encercler lors de la bataille de Khandaq, qu'on appelle la bataille des coalisés, on appelle également Al-Ahzab, par les Quraysh et par alliance aux tribus polythéistes autour de la Mecque, autour de Madina, et certaines tribus qui habitaient dans Madina Al-Munawwara et qui ont trahi le pacte de fraternité, de non-agression avec les musulmans, et que donc l'existence même de l'islam est mise en question, où la vie de chaque sahaba, de chaque épouse, de chaque enfant est mise en danger, et que les musulmans se préparent à lutter, et qu'ils les avaient encerclés pour les affamer, pour qu'ils meurent de faim. Là on comprend c'est quoi une bataille. Toutes les communautés, toutes les civilisations ont connu à un moment donné des situations où ils ont dû se défendre. Y a-t-il quelqu'un qui va blâmer une communauté qui se défend, qui protège sa femme et ses enfants, qui protège sa ville, ses biens, ses acquis? Ça, c'est quelque chose de concevable. Et on va le concevoir à partir du moment où on va étudier la sira auprès de personnes compétentes et qui ne vont pas détourner ces faits de notre histoire, qui n'est pas notre culture mais notre dîn, pour essayer d'alimenter d'autres opinions qui ont d'autres finalités. On va voir ça. Maintenant, quand on analyse Al-Ahzab, les coalisés, quand on analyse la bataille de Uhud, quand on analyse Hunayn, quand on analyse l'armée romaine, les Romains, c'est qui les Romains? C'était la plus grande puissance à cette époque qui menace d'envahir la péninsule arabe, et que le prophète alayhi salatu wassalam se doit de dresser une armée pour défendre la terre des musulmans. Quand on analyse ces situations, qui sont des situations que toutes les civilisations ont connues de leur histoire, et que maintenant, on essaie de comprendre comment est-ce qu'un groupe de commandos, pénètre dans une école au Pakistan et ils vont tuer 120 enfants. Et dans certains récits, il est même dit qu'ils ont été fouillés classe par classe, soulever les bancs pour voir s'il n'y reste pas un enfant vivant pour l'exécuter. C'est de la barbarie. Ils diront ce qu'ils voudront, mais en aucun cas on ne pourra reconnaître 1% de leur comportement au comportement du prophète alayhi salatu wassalam dans des situations d'affrontement et de conflit. Lorsque, et là on revient en France malheureusement, lorsqu'une personne se permet d'entrer dans un commissariat, si les faits sont avérés, apparemment c'est avéré, et brandir une arme blanche pour porter des coups à des officiers de l'État, qui sont avant tout des citoyens, des pères de famille, qui ne sont pour rien dans des conflits qui se passent à des milliers de kilomètres, et qui va essayer de porter atteinte à leur vie en disant quoi? Allahu Akbar. Dites-moi mes chers frères en islam, quel rapport entre ce Allahu Akbar et les 94 Allahu Akbar que chaque musulman dit dans les 5 namaz faraz tous les jours? Quel rapport entre cet acte odieux, ce détournement du takbir, et les 30 fois qu'on dit Allahu Akbar, quand on donne l'azan, quand on donne l'appel à la prière? Quel rapport? Je vous dis clairement, il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucune idéologie commune à retrouver entre ces deux actes. Et c'est là, mes chers frères, on a développé les conséquences de l'ignorance par rapport aux actions, par rapport au comportement, par rapport à la vie au sein de la société. Mais quand, je le répète, quand on voit de telles exactions, on réalise qu'en finalité, ce sont là des personnes, soit qu'ils exploitent l'ignorance et la naïveté de personnes qui veulent donner leur vie pour la religion, ou alors, d'une manière plus générale, c'est le résultat de la jahal, de l'ignorance totale, l'absence de connaissance des textes et le fait de prendre un fait, une anecdote de l'histoire de l'islam, sans considérer son contexte, et l'appliquer dans une situation qui est totalement décalée, ce qui s'apparente à l'ignorance. Je vous donne un exemple pour avoir un rapprochement entre le décalage qu'il y a entre le texte et la pratique d'un texte sans connaissance du contexte. Vous connaissez tous le namaz musafir. Quand on est voyageant, on fait deux rakat. Dans le Coran, il y a des textes qui prouvent qu'en voyage, on peut faire deux rakat quand c'est des prières qui comptent quatre unités de prière. Si une personne dit, bon, je suis fatigué, je vais faire deux rakat musafir aujourd'hui. On va dire, mais ça n'a aucun sens. Certes, il dit que je le pratique parce que dans le Coran, il y a un verset qui parle de la salat musafir, le qasar. Il dit, il y a certes un verset qui parle de la salat musafir, qu'on est voyageur, mais il y a un contexte. Mais la personne va l'enlever du contexte pour le pratiquer et on sera unanime, sans divergence d'opinion, sur le fait que cette salat n'a aucune valeur, n'a aucun sens et ce n'est pas du tout ce qu'Allah Rabbul Izza attend. C'est exactement le même mode opératoire à travers toutes ces inactions qu'il y a depuis une quinzaine d'années. C'est l'exploitation de textes, le détournement de textes par des personnes qui ont une certaine connaissance, mais qui ont d'autres objectifs et qui vont profiter de la naïveté, de la disponibilité de personnes souvent qui viennent d'embrasser l'islam, de se reconvertir et qui ont envie d'avoir un rôle de leur vie, mais ces gens-là vont être happés, exploités par des personnes mal intentionnées pour arriver à de tels actes et qui vont donner une image extrêmement préjudiciable, extrêmement négative de notre dîn. Et c'est là qu'on réalise encore plus que le plus grand mal de la société, c'est al-jahl, c'est l'ignorance. Et à travers ce genre d'exactions, il y a des termes qui sont apparus depuis 15 ans. On parle d'extrémisme, on parle de... Ah, il y avait d'autres termes, subhanallah, on les lit tous les jours. On parle d'extrémisme, on parle de fondamentalisme religieux, mais nous on pourrait résumer tout ça par al-jahl, par l'ignorance. C'est le fait qu'il n'y ait pas d'éducation à la base. Et ce qui s'est passé au Pakistan, mes chers frères, en islam, ça donne froid dans le dos. On en est arrivé à là, à une telle barbarie. Si ces personnes-là avaient une quelconque stratégie jusqu'à maintenant pour se rallier la cause de l'ensemble des musulmans de différents pays, je pense que c'était la plus grosse erreur de stratégie. Je pense que la page est définitivement tournée. Plus personne cohérent, réfléchissant de façon neutre et objective, peut encore dire que de tels mouvements, ce sont des mouvements musulmans, ce sont des mouvements islamiques. Ils diront peut-être islamistes ou autre chose, mais nous on dira plutôt, ce sont des mouvements d'ignorants. Parce qu'on n'accepte même pas un préfixe commun avec notre religion de l'islam. Lorsqu'on voit comment le prophète alayhi salatu wassalam agissait avec les enfants, le prophète dit, ne fait pas partie de nous celui qui n'a pas de l'amour, de la pitié pour les petits. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il priait, il était imam, il entend un bébé pleurer, il raccourcit la salat pour que la maman puisse se libérer. Le prophète alayhi salatu wassalam est sur le mimbar, il voit Al-Hassan et Al-Hussein, il est tellement ému de voir ses petits-enfants qui sont beaux, il descend, il les embrasse, ensuite il remonte sur le mimbar. Ça c'était l'amour que le prophète alayhi salatu wassalam avait pour les enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose à comparer avec ce que ces gens ont fait? Mes chers frères, en islam, il n'y a pas plus grande trahison que de trahir le prophète alayhi salatu wassalam et de faire croire qu'on suit le modèle prophétique en agissant de façon contraire. Lorsque, on parle de hadith, le prophète dit, celui qui ment mon propos, falyatabawwa maq'adahu minan nar, celui qui invente un hadith et qui l'attribue au prophète alayhi salatu wassalam, qu'il prépare sa place en enfer, par analogie. On serait presque tenté de dire, celui qui agit d'une façon et il fait croire aux gens que c'est là la façon prophétique d'agir, c'est le plus grand menteur, c'est la personne qui réellement a trahi la tradition prophétique, mais qui trahit l'ensemble de la Ummah. Parce qu'à travers ce genre d'agissement, il suffit qu'un imbécile, excusez-moi, qu'un ignorant passe à l'action pour qu'il y ait des conséquences, des préjudices dans la vie du musulman en France, en Angleterre, en Amérique, au Canada, dans n'importe quel pays du monde. Chaque musulman paye de façon indirecte les agissements de ces personnes qui ne représente en rien l'esprit de notre dîn, ce qu'on appelait tout à l'heure maqasid al-sharia. Et pour ne rien arranger, il y a une malhonnêteté intellectuelle envahissante des médias qui vont exploiter la peur ambiante de l'islam et exploiter des faits isolés, des échantillons de personnes marginales pour en faire une généralité, pour attiser la peur de l'islam au sein des foyers. Il n'y a pas besoin de faire un dessin ou de faire une étude pour voir qu'il y a un déséquilibre dans le traitement des informations. Quand on parle de déporter, quand certains analystes, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils analysent, ils parlent de déporter 5 millions de musulmans, certains vont parler de liberté d'expression. Changez juste le nom des communautés et vous verrez le procès que vous aurez avant que votre phrase ne soit même terminée. Quand un Islandais abat une centaine de personnes, on va dire que c'était un marginal, jamais un terroriste. Quand un pays abat un avion rempli de civils, le monde ne réagit pas spécialement. Mais si c'était des musulmans, ça aurait été une guerre immédiatement. Il y a une désinformation, il y a un déséquilibre de le traitement de l'information. C'est des choses qui sont claires. Quand des déséquilibrés foncent sur des foules en criant, soi-disant, Allahu Akbar, les médias vont s'empresser d'en faire la une de leurs journaux avant même que les enquêtes n'ont abouti sur un résultat. Et lorsque l'enquête détermine que ce n'était pas un acte terroriste, de toute façon, le mal est fait. Les gros titres ont été publiés, ils ont réussi à affoler le français moyen. Que pouvons-nous faire? Il se fut une époque où on disait, ayez un bon comportement. Mais maintenant, même en ayant un bon comportement, on se rend compte que par de telles inactions, ça va fausser le travail de akhlaq qu'on essaie, le da'wa qu'on essaie de faire par le biais de notre comportement. Premier point, c'est le résumé, c'est la conclusion, c'est le dénouement de l'année aussi. Premièrement, privilégier sans remettre à Allah. Sans remettre à Allah. Le prophète alayhi salatu wa salam a été accusé de sorcellerie, a été accusé de séparer les familles, et il y a eu même une rupture, ce qu'on appelle un embargo à l'encontre de la famille du prophète à Mecca. Ils s'en sont remis à Allah et Allah les a aidés. Donc le prophète lui-même a vécu ce genre d'injustice, ce genre de désinformation. Privilégier l'éducation par le biais de la madrasa. Et une éducation islamique dans le contexte. Parce que quand on habite dans un contexte où l'islam est minoritaire et qu'on est entouré de personnes d'autres confessions, notre manière d'agir n'est pas la même que si on habite dans un pays 100% musulman. Il faut qu'il y ait une éducation, un ta'lim qui est équilibré, qui est en accord avec le contexte. La prévention, malgré le rôle des madrasas, des médersas, malgré le rôle des a'immas, des savants qui vont essayer d'encadrer la jeunesse, d'encadrer les générations pour ne pas arriver à de telles dérives, personne, aucune communauté ne peut dire que nous on est protégé pour les 50 prochaines années. Et là on attire l'attention de nos jeunes, et peut-être même de le moins jeune, sur les dangers éventuels qu'il y a à travers Internet. Il y a des fois, on peut entendre des discours qui vont à l'encontre des principes que nous propageons, que nous enseignons. On doit être extrêmement vigilant. La prévention, c'est un point extrêmement essentiel pour protéger la jeunesse. Parce que quand on protège nos jeunes contre les dérives sectaires, c'est protéger, d'une certaine façon, le futur de l'islam à La Réunion. C'est garantir le bon vivre ensemble pour nos enfants, peut-être pour nous savants, mais pour une génération, pour deux générations plus tard. C'est garantir l'existence des mosquées pour lesquelles on investit. C'est garantir l'existence des médersas, des kabristan que nos grands-parents, bismillah, ont mis sur pied. C'est honorer d'une certaine façon également le travail qui a été fait en amont. C'est protéger l'islam pour les futures générations. C'est donc un devoir de musulman, c'est également un devoir de citoyen. Parmi les réactions adoptées, l'union, rester ensemble. Il n'y a jamais une époque où l'islam a été aussi pointé du doigt. Si on commence à avoir des divergences entre nous, on n'aura pas wahdatul saf, wahdatul kalima, importance de mettre de côté parfois nos divergences pour aller vers un objectif commun qui sera profitable pour l'ensemble de la Ummah et surtout pour les nouvelles générations. Autre point, agir, répondre présent. Il nous faut des jeunes investis. On a assez, enfin, alhamdulillah, on est une génération qui ont plus travaillé dans le secteur de la comptabilité, de la gestion. Demain, on a besoin de journalistes musulmans, absolument. On a besoin de personnes engagées dans les plus hautes sphères de la société pour essayer de rééquilibrer les débats, pour essayer d'apporter les informations justes et correctes. Et encore une fois, le meilleur des akhlaq possible pour contrer ce genre d'exaction et exporter le akhlaq. Il y a des choses qu'on doit essayer de mettre en place. En métropole, il y a des maraudes. Il y a des gens qui sortent pour aller aider les personnes démunies. Ce sont des choses que nous devons faire pour montrer également le symbole de la fraternité, de la solidarité qu'il y a dans notre din. Et enfin, respecter les lois du pays pour montrer que être musulman et être citoyen, ce sont deux choses qui vont ensemble, qui sont totalement compatibles. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège, protège notre din, protège le din pour nos enfants, et qu'Allah Rabbul Izzah apaise les cœurs et nous protège des divergences.